France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Olivier Ezrati.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et comme c'est aujourd'hui, nous venons de clore Vivatech et que vous en êtes l'un des meilleurs observateurs, nous sommes dit que nous allions vous inviter car vous êtes donc spécialiste de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, particulièrement des deep tech consultants, c'est ça?
Tout à fait.
Vous allez nous expliquer, vous avez un modèle économique à vous, très précisément, mais vous avez un blog très précieux que nous sommes nombreux à lire, qui s'appelle Opinion Libre, sur lequel vous publiez chaque année en open source un guide du CES, c'est la grande convention de Las Vegas de l'innovation au niveau mondial, un guide des startups en France, la 23e édition, vous l'avez publié en avril dernier, donc 23 éditions depuis 14 ans, vous en rédigiez 3 par an au début, puis 2 par an, puis finalement vous avez ralenti le rythme, mais on est heureux pour vous, mais ça donne donc un guide qui fait plus de 500 pages, le guide que tout jeune entrepreneur doit vraiment, alors j'allais dire acquérir, mais en fait non, car tous ces livres, ainsi qu'un livre que vous avez appelé « Comprendre l'informatique quand et un autre consacré à l'intelligence artificielle sont un open source, vous nous les offrez. Ça c'est beau, ça veut aussi dire quelque chose de certaines visions de l'innovation qui est la vôtre. Et première question pour commencer, comment est-ce que vous vous financez du coup? Les entreprises vous utilisent comme consultant, elles jouent le jeu, donc vous n'êtes jamais véritablement influencé par des entreprises. C'est les seuls guides pas sponsorisés.
J'essaie effectivement, donc je vis en travaillant avec les entreprises de toute taille, de toute forme, et parfois avec des fonds d'investissement, donc je fais des conférences, de la formation, du conseil, et ça me permet d'avoir ce modèle un peu asymétrique, donc j'aime bien partager le savoir. Je considère que dans le monde de l'innovation, ce qui est important, notamment pour un pays comme la France, c'est de partager un maximum de savoir pour apprendre à justement dynamiser l'économie, développer la capacité à entreprendre, développer la capacité à promouvoir ces fameuses deep tech, donc qui permettent de transformer ce qui vient de la recherche scientifique en prouesse entrepreneuriale et qui permet d'innover sur le terrain.
Alors justement, c'est un guide de 500 pages que vous avez publié en avril avec plus d'une soixantaine de contributeurs. Au début, vous étiez seul, qui recense à la fois les morts dans les startups, parce qu'il y en a beaucoup chaque année.
Je le recense, pas forcément, j'explique vous pourquoi expliquez on peut pourquoi, mourir, mais il n'y a pas d'inventaire. Hein. J'essaye de mettre en avant les bonnes pratiques, en tout cas.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quelles sont les grandes tendances de cette année 2019? Vous dites plusieurs choses, essentiellement deux choses. D'une part, que l'écosystème des startups, qui a longtemps vécu comme un écosystème un peu propre, se confond de plus en plus avec celui de l'innovation en France, dans le cadre de ce que vous détestez appeler la transformation digitale, mais dont on parle souvent avec Frédéric Martel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit?
En fait, dans tout pays moderne, l'écosystème des startups, c'est une des composantes de l'économie. N'importe quel pays a besoin de dynamiser ses entreprises, il a besoin de les renouveler, on a besoin d'être innovant pour être compétitif, donc les startups contribuent à ce renouvellement permanent de l'économie. Il faut savoir que la plupart des grands acteurs d'aujourd'hui étaient des startups au départ. Hein. Les Google, les Facebook d'aujourd'hui, c'était des startups, mais même Thomas Edison et Graham Bell au 19e siècle, c'était des startups. Et c'était des startups qui avaient une caractéristique, y compris d'ailleurs dans le cas de Google, c'est qu'ils venaient souvent du monde de la recherche. Donc on a besoin d'avoir une capacité économique à transformer ce qui vient de la recherche ou ce qui vient des jeunes, qui vient de tous les systèmes scolaires en innovation pour créer idéalement des entreprises de grande taille qui vont après redynamiser le pays.
Alors justement, que s'est-il passé en cette année 2019? Il y a eu l'arrivée, même si on va dire l'installation et l'épanouissement de lieux comme Station F. Vous suivez aussi le destin de The Family. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette année 2019?
Alors je regarde ça sur 12 mois, pas sur 5 mois uniquement, mais ce qui se passe, c'est que finalement, on a des évolutions incrémentales. Hein. Il y a pas de révolution radicale. Station F, ça a été ouvert il y a près de 2 ans. Ça a consolidé effectivement comme un trou noir un peu l'écosystème parisien, au détriment d'ailleurs d'autres acteurs comme Numa ou d'autres petites structures. Ça joue un rôle important de ce côté-là. Depuis 2-3 ans, et d'ailleurs ça correspond avec le début de Vivatech en 2016, on a vu, d'ailleurs j'ai même appelé ça la vivatechnologisation de l'écosystème, à savoir que les grandes entreprises jouent un rôle très important dans l'accompagnement des startups. En parallèle, on a vu émerger un nouveau phénomène qui est mondial, en fait, qui n'est pas que français, qui est l'émergence de ce qu'on appelle les scale-up. Les scale-up, c'est un barbarisme qui décrit les startups qui grandissent et qui dépassent le cadre de la startup qui est en phase d'amorçage.
C'est un énorme enjeu, voilà. Parce qu'en France, on a toujours très bien su financer les startups, avec notamment un engagement de la BPI assez fort, et au bout d'un certain moment, il y a 3, 4, 5 ans, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à passer ce stade supplémentaire, quand la startup ne meurt pas, elle a du mal pour le coup à monter.
En effet, ça c'est un phénomène européen en fait, il n'est pas spécifique à la France. Hein. Si on regarde un peu les grands indicateurs français, allemands, anglais et des autres pays européens, certes les Anglais nous dépassent largement dans la capacité à créer des grandes entreprises, ce qu'on appelle les licornes, hein, ces entreprises qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars avant d'être introduites en bourse. Mais la France est un peu derrière l'Allemagne de ce point de vue-là, mais on arrive maintenant de plus en plus à financer des entreprises avec des montants de financement compris entre 10 et voire 200, 300 millions d'euros. Bon, le problème, c'est que dans le même temps, les entreprises chinoises et américaines innovantes ont, elles aussi, été capables d'attirer encore plus de capitaux. En fait, il y a beaucoup de liquidités qui sont disponibles sur les marchés financiers pour financer les start-up. Et donc, en fait, tout le monde progresse au même rythme. L'enjeu principal, et qui, je pense, n'est pas encore entièrement digéré par le pays, c'est de développer l'international. C'est-à-dire, c'est que trouver les bons ressorts, les bons moyens pour créer rapidement des leaders mondiaux. Et on est un petit peu coincé quand on est dans un pays intermédiaire comme la France. On est un peu attiré par son marché intérieur qui nous donne envie de travailler avec les grandes entreprises françaises, donc d'où ce qu'on voit à Vivatech aujourd'hui. Et de l'autre, on sait que les grands marchés, ils sont ailleurs. Et ils sont même pas en Europe, les grands marchés.
Donc on est tiraillé entre les deux types de marchés, types d'aspirations. Justement, on va peut-être poser une question extrêmement idiote, parce que je ne l'ai pas présentée au début. Qu'est-ce que c'est Vivatech? Et de quel désir c'est né en 2016? Vous le regardez depuis maintenant 3 ans. Pour ceux qui nous écoutent et ne le savent pas, de quoi est-ce qu'il s'agit?
Vivatech, c'est une sorte de grand salon, hein. C'est un peu le salon de l'agriculture, de l'innovation et des start-up. C'est là où il y a les vaches au salon de l'agriculture. C'est dans le hall 1 du parc des expositions de Ville Paris, la porte de Versailles. Il a été créé imaginé fin 2015 par les équipes des Échos et de Publicis, qui avaient envie de créer, en fait, un grand événement en France. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, le MEDEF avait aussi ce rêve. Je me rappelle de Pierre Gattaz qui disait, ce serait bien si on avait un CES de Las Vegas à Paris. Alors, au départ, ils essayaient de draguer l'organisateur du CES des États-Unis pour lui faire créer son événement à Paris. Mais évidemment, ça marche pas, parce que bien évidemment, le gars, il a envie de préserver son business aux États-Unis. Il va pas créer un truc pour les beaux yeux de la France, même s'il y a des petits événements en France qui permettent d'en faire le relais. Donc l'idée, c'était ça. Alors, ils étaient titillés par de grands événements qui étaient en train de se développer en Europe et qui continuent à être des événements importants, comme le Web Summit qui était à Dublin, puis à Lisbonne, le Slush qui a lieu à Helsinki. Il y a tous les ans, comme ça, il y a de grands événements. Et le pari, en fait, de Maurice Lévy et des équipes des Échos, c'était de créer un événement qui soit à la hauteur de cela, voire qui devienne le premier en Europe.
Et là, Paris réussit. 3 ans après, Paris réussit.
Je dirais chapeau, parce que finalement, en 3 ans, ils ont réussi à créer un événement qui est plus grand que ceux que je viens de citer. Alors, qui n'est pas aussi grand que l'IFA de Berlin ou le Mobile World Congress qui est dédié à la mobilité, qui était à Barcelone entre février et mars. Mais c'est quand même le plus grand événement de start-up maintenant. Ils ont plus de 100 000 visiteurs. Ils avaient cette année aux alentours de 1700 start-up. Donc, chapeau. Ils ont réussi à faire un beau coup. Par contre, il y a du boulot encore, notamment sur l'internationalisation.
Alors c'est ça, c'est ce que vous dites, vous n'avez pas encore eu le temps de publier votre billet de blog sur l'édition de cette année. Ouais. Peut-être, on espère quand même, on compte dessus. L'année dernière, vous regrettiez, comme pas mal de gens, la CAC-40isation de ce Vivatech. C'est-à-dire que la première année, on avait plein de petites startups, regroupées parfois par thème, blockchain, IA, deep learning, etc. Et aujourd'hui, on a d'énormes entreprises qui accueillent sur leur stand des petites startups. Si vous voulez aller voir la blockchain, vous devez aller chercher sur la liste. Qu'est-ce que vous constatez et en quoi est-ce que c'est ou pas un reflet de ce qui se passe à l'échelle de l'innovation dans ce paysage que vous regardez
souvent ? Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y avait toujours évidemment de grandes entreprises qui accueillaient leurs startups, certaines jusqu'à plus d'une quarantaine, chez LVMH ou L'Oréal ou d'autres. Mais il y a quand même une diversité observable. Il y a par exemple des stands d'écoles d'ingénieurs, comme l'école Polytechnique ou Télécom Paritech. Il y a des stands de régions qui valorise leur écosystème régional, même de l'outre-mer. Et il y avait cette année près d'une vingtaine de pavillons étrangers. Donc il y a une grande diversité, il y a même des PME qui sont là. Donc il y a une grande diversité quand même d'accueillants de start-up, même la DGSE. Enfin bon,
la DGSE a un stand.
L'année dernière.
Bizarrement, grande absente de cette Vivatech, la CNIL n'a pas de stand à Vivatech.
La CNIL n'a pas de stand, mais la CNIL, à ma connaissance, n'a pas d'incubateur ou d'accélérateur de start-up.
Ouais, la CNIL est quand même théoriquement un acteur.
C'est un régulateur. L'ARCEP non plus, alors que l'ARCEP, un programme dédié aux startups. Donc voilà, cette diversité, elle est intéressante. Effectivement, les sujets sont un petit peu saupoudrés, façon puzzle chez tous les exposants. Il faut effectivement scanner un petit peu les allées une par une pour retrouver ces centres d'intérêt. Moi, par exemple, cette année, je me suis intéressé au futur des transports, parce que je prépare une conférence là-dessus. Et donc, j'ai trouvé une bonne douzaine de sociétés dans ce domaine-là, mais elles étaient étalées dans tout le salon.
Merci beaucoup Olivier Ezrati. Je rappelle donc le nom de votre blog Opinion Libre. Je rappelle que vous publiez donc chaque année ce guide des startups, ce guide du CES et de très bons livres, toujours en open source. Vous restez avec nous parce qu'on continue à parler de Vivatech dans Soft Power.